Section 16.
Itinéraire, troisième partie. Voyage de Rhodes, de Jaffa, de Bethléem et de la mer morte. Nous étions sur le vaisseau à peu près 200 passagers, hommes, femmes, enfants et vieillards. On voyait autant de nattes rangées en ordre des deux côtés de l'entrepont. Une bande de papier collée contre le bord du vaisseau indiquait le nom du propriétaire de la natte. Chaque pèlerin avait suspendu à son chevet son bourdon, son chapelet et une petite croix. La chambre du capitaine était occupée par les papas, conducteurs de la troupe. À l'entrée de cette chambre, on avait ménagé deux antichambres. J'avais l'honneur de loger dans un de ces trous noirs d'environ 6 pieds carrés avec mes deux domestiques. Une famille occupait, vis-à-vis de moi, l'autre appartement. Dans cette espèce de république, chacun faisait son ménage à volonté. Les femmes soignaient leurs enfants, les hommes fumaient ou préparaient leur dîner, les papas causaient ensemble. On entendait de tous côtés le son des mandolines, des violons et des lyres. On chantait, on dansait, on riait, on priait. Tout le monde était dans la joie. On me disait « Jérusalem » en me montrant le midi. Et je répondais « Jérusalem ». Enfin, sans la peur, nous eussions été les plus heureuses gens du monde. Mais au moindre vent, les matelots pliaient les voiles, les pèlerins criaient « Christos !» criaient l'Eison. L'orage passé, nous reprenions notre audace. Au reste, je n'ai point remarqué le désordre dont parlent quelques voyageurs. Nous étions, au contraire, fort décents et fort réguliers. Dès le premier soir de notre départ, deux papas firent la prière, à laquelle tout le monde assista avec beaucoup de recueillement. On bénit le vaisseau, cérémonie qui se renouvelait à chaque orage. Les chants de l'église grecque ont assez de douceur, mais peu de gravité. J'observai une chose singulière. Un enfant commençait le verset d'un psaume dans un ton aigu et le soutenait ainsi sur une seule note, tandis qu'un papas chantait le même verset sur un air différent et en canon, c'est-à-dire commençant la phrase lorsque l'enfant en avait déjà passé le milieu. Ils ont un admirable Kyrie Eleison. Ce n'est qu'une note tenue par différentes voix, les unes graves, les autres aiguës, exécutant en dante et mezza voce l'octave, la quinte et la tierce. L'effet de ce Kyrie est surprenant pour la tristesse et la majesté. C'est sans doute un reste de l'ancien chant de la primitive église. Je soupçonne l'autre psalmodie d'appartenir à ce chant moderne, introduit dans le rite grec vers le IVe siècle, et dont saint Augustin avait bien raison de se plaindre. Dès le lendemain de notre départ, la fièvre me reprit avec assez de violence. Je fus obligé de rester couché sur ma natte. Nous traversâmes rapidement la mer de Marmara, la Propontide. Nous passâmes devant la presqu'île de Sizik et à l'embouchure d'Aegos Potamos. Nous rasâmes les promontoires de Sestos et d'Abydos. Alexandre et son armée, Xerxès et sa flotte, les Athéniens et les Spartiates, Héros et Léandre, ne purent vaincre le mal de tête qui m'accablait. Mais lorsque, le 21 septembre, à 6 heures du matin, on vint me dire que nous allions doubler le château des Dardanelles, la fièvre fut chassée par les souvenirs de Troie. Je me traînais sur le pont. Mes premiers regards tombèrent sur un haut promontoire couronné par 9 moulins. C'était le cap Sigée. Au pied du cap, je distinguais 2 tumulus, les tombeaux d'Achille et de Patrocle. L'embouchure du Simoïs était à la gauche du château neuf d'Asie. Plus loin, derrière nous, en remontant vers l'Élépon, paraissait le cap Rété et le tombeau d'Ajax. Dans l'enfoncement s'élevait la chaîne du mont Ida, dont les pentes, vues du point où j'étais, paraissaient douces et d'une couleur harmonieuse. Ténédos était devant la proue du vaisseau. Est in conspectu Ténédos. Je promenais mes yeux sur ce tableau et les ramenais malgré moi à la tombe d'Achille. Je répétais ces vers du poète. L'armée des Grecs belliqueux élève sur le rivage un monument vaste et admiré. Monument que l'on aperçoit de loin en passant sur la mer et qui attirera les regards des générations présentes et des futures. Anf auto ici de peita megan kai amimona timbon keuamen ageion hieros stratos aikmetaon
acte epi procuse epi platei eles ponto. Osken telephanes ec pontofin andrasin eie toisoi nin gegaasi caioi metopisten esantai.
Odyssée, livre 24. Les pyramides des rois égyptiens sont peu de choses, comparées à la gloire de cette tombe de gazon que chanta Homère et autour de laquelle courut Alexandre. J'éprouvais en ce moment un effet remarquable de la puissance des sentiments et de l'influence de l'âme sur le corps. J'étais monté sur le pont avec la fièvre. Le mal de tête cessa subitement. Je sentis renaître mes forces et ce qu'il y a de plus extraordinaire, toutes les forces de mon esprit. Il est vrai que 24 heures après, la fièvre était revenue. Je n'ai rien à me reprocher. J'avais eu le dessein de me rendre par l'Anatolie à la plaine de Troie, et l'on a vu ce qui me força à renoncer à mon projet. J'ai voulu aborder par mer, et le capitaine du vaisseau refusa obstinément de me mettre à terre, quoiqu'il y fût obligé par notre traité. Dans le premier moment, ces contrariétés me firent beaucoup de peine, mais aujourd'hui je m'en console. J'ai tant été trompée en Grèce que le même sort m'attendait peut-être à Troie. Du moins, j'ai conservé toutes mes illusions sur le Simoïs. J'ai de plus le bonheur d'avoir salué une terre sacrée, d'avoir vu les flots qui la baignent et le soleil qui l'éclaire. Je m'étonne que les voyageurs, en parlant de la plaine de Troie, néglige presque toujours les souvenirs de l'Énéide. Troie a pourtant fait la gloire de Virgile comme elle a fait celle d'Homère. C'est une rare destinée pour un pays d'avoir inspiré les plus beaux chants des deux plus grands poètes du monde. Tandis que je voyais fuir les rivages d'Ilion, je cherchais à me rappeler les vers qui peignent si bien la flotte grecque sortant de Ténédos et s'avançant per silentia lonae, à ces bords solitaires qui passaient tour à tour mes yeux. Bientôt des cris affreux succédaient au silence de la nuit, et les flammes du palais de Priam éclairaient cette mer où notre vaisseau voguait paisiblement. La muse d'Euripide, s'emparant aussi de ses douleurs, prolongea les scènes de deuil sur ces rivages tragiques. Le cœur. Hécube, voyez-vous Andromaque qui s'avance sur un char étranger? Son fils, le fils d'Hector, le jeune Astyanax, suit le sein maternel. Hécube. Ô femme infortunée, en quel lieu êtes-vous conduite, entourée des armes d'Hector et des dépouilles de la Phrygie? Andromaque. Ô douleur. Hécube. Mes enfants. Andromaque. Infortunée. Hécube. Et mes enfants. Andromaque. Accours, mon époux. Hécube. Oui, viens, fléau des Grecs. Le premier de mes enfants, rends à Priam dans les enfers celle qui, sur la terre, lui fut si tendrement unie. Le cœur. Il ne nous reste que nos regrets et les larmes que nous versons sur ces ruines. Les douleurs ont succédé aux douleurs. Troie a subi le joug de l'esclavage. Hécube. Ainsi le palais où je devins mère est tombé. Le cœur. Ô mes enfants, votre patrie est changée en désert, etc. Tandis que je m'occupais des douleurs des cubes, les descendants des Grecs avaient encore l'air sur notre vaisseau de se réjouir de la mort de Priam. Deux matelots se mirent à danser sur le pont au son d'une lyre et d'un tambourin. Ils exécutaient une espèce de pantomime. Tantôt ils levaient les bras au ciel, tantôt ils appuyaient une de leurs mains sur le côté, étendant l'autre main comme un orateur qui prononce une harangue. Ils portaient ensuite cette même main au cœur, au front, aux yeux. Tout cela était entremêlé d'attitudes plus ou moins bizarres, sans caractère décidé et assez semblables aux contorsions des sauvages. On peut voir, au sujet des danses des Grecs modernes, les lettres de M. Guy et de Mme Chénier. À cette pantomime succéda une ronde où la chaîne, passant et repassant par différents points, rappelait assez bien les sujets de ces bas-reliefs où l'on voit des danses antiques. Heureusement, l'ombre des voiles du vaisseau me dérobait un peu la figure et le vêtement des acteurs, et je pouvais transformer mes sales matelots en bergers de Sicile et d'Arcadie. Le vent, continuant à nous être favorable, nous franchîmes rapidement le canal qui sépare l'île de Ténédos du continent, et nous longeâmes la côte de l'Anatolie jusqu'au cap Baba, autrefois Lectum Promontorium. Nous portâmes alors à l'ouest pour doubler, à l'entrée de la nuit, la pointe de l'île de Lesbos. Ce fut à Lesbos que naquirent Sappho et Alcée, et que la tête d'Orphée vint aborder en répétant le nom d'Eurydice. « Ah, miseram
et Eurydiken,
anima fugiente, vocabat !» Le 22 au matin, la tramontane se leva avec une violence extraordinaire. Nous devions mouiller à Chios pour prendre d'autres pèlerins. Mais par la frayeur et la mauvaise manœuvre du capitaine, nous fûmes obligés d'aller jeter l'ancre au port de Tchesmé, sur un fond de roc assez dangereux, près d'un grand vaisseau égyptien naufragé. Ce port d'Asie a quelque chose de fatal. La flotte turque y fut brûlée en 1770 par le comte Orloff. Et les Romains y détruisirent les galères d'Antiochus l'an 191 avant notre ère, c'est toutefois le Cisus des anciens et le Tchesmé des modernes. M. de Choiseul a donné un plan et une vue de ce port. Le lecteur se souvient peut-être que j'étais presque entré à Tchesmé en faisant voile pour Smyrne, le 1er septembre, 21 jours avant mon second passage dans l'archipel. Nous attendîmes, le 22 et le 23, les pèlerins de l'île de Chios. Jean descendit à terre et me fit une ample provision de grenades de Tchesmé. Elles ont une grande réputation dans le Levant, quoiqu'elles soient inférieures à celles de Jaffa. Mais je viens de nommer Jean, et cela me rappelle que je n'ai point encore parlé au lecteur de ce nouvel interprète, successeur du bon Joseph. C'était l'homme le plus mystérieux que j'ai jamais rencontré. Deux petits yeux enfoncés dans la tête et comme cachés par un nez fort saillant. Deux moustaches rouges, une habitude continuelle de sourire, quelque chose de souple dans le maintien, donneront d'abord une idée de sa personne. Quand il avait un mot à me dire, il commençait par s'avancer de côté, et après avoir fait un long détour, il venait presque en rampant me chuchoter dans l'oreille la chose du monde la moins secrète. Aussitôt que je l'apercevais, je lui criais « Marchez droit et parlez haut !» conseil qu'on pourrait adresser à bien des gens. Jean avait bien des intelligences avec les principaux papas, il racontait de moi des choses étranges, il me faisait des compliments de la part des pèlerins qui demeuraient à fond de cale et que je n'avais pas remarqué. Au moment des repas, il n'avait jamais d'appétit, tant il était au-dessus des besoins vulgaires. Mais aussitôt que Julien avait achevé de dîner, ce pauvre Jean descendait dans la chaloupe où l'on tenait mes provisions et, sous prétexte de mettre de l'ordre dans les paniers, il engloutissait des morceaux de jambon, dévorait une volaille, avalait une bouteille de vin. Et tout cela avec une telle rapidité qu'on ne voyait pas le mouvement de ses lèvres. Il revenait ensuite d'un air triste, me demandait si j'avais besoin de ses services. Je lui conseillais de ne pas se laisser aller au chagrin et de prendre un peu de nourriture, sans quoi il courait le risque de tomber malade. Le grec me croyait sa dupe, et cela lui faisait tant de plaisir que je le lui laissais croire. Malgré ce petit défaut, Jean était au fond un très honnête homme, et il méritait la confiance que ses maîtres lui accordaient. Au reste, je n'ai tracé ce portrait et quelques autres que pour satisfaire au goût de ses lecteurs qui aiment à connaître les personnages avec lesquels on les fait vivre. Pour moi, si j'avais eu le talent de ces sortes de caricatures, j'aurais cherché soigneusement à l'étouffer. Tout ce qui fait grimacer la nature de l'homme me semble peu digne d'estime. On sent bien que je n'enveloppe pas dans cet arrêt la bonne plaisanterie, la raillerie fine, la grande ironie du style oratoire et le haut comique. Dans la nuit du 22 au 23, le bâtiment chassa sur son ancre et nous pensâmes nous perdre sur les débris du vaisseau d'Alexandrie, naufragé auprès de nous. Les pèlerins de Chios arrivèrent le 23 à midi. Ils étaient au nombre de 16. À 10 heures du soir, nous appareillâmes par une fort belle nuit avec un vent d'est modéré qui remonta au nord le 24 au lever du jour. Nous passâmes entre Nicaria et Samos. Cette dernière île fut célèbre par sa fertilité, par ses tyrans et surtout par la naissance de Pythagore. Le bel épisode de Télémaque a effacé tout ce que les poètes nous ont dit de Samos. Nous nous engageâmes dans le canal que forment les Sporades, Patmos, les Rias, Kos, etc., et les rivages de l'Asie. Là serpentait le méandre, là s'élevait Éphèse, Milet, Halicarnasse, Cnide. Je saluais pour la dernière fois la patrie d'Homère, d'Hérodote, d'Hippocrate, de Thalès, d'Aspasie, mais je n'apercevais ni le temple d'Éphèse, ni le tombeau de Mausole, ni la Vénus de Cnide, et sans les travaux de Pocock, de Wood, de Spon, de Choiseul, je n'aurais pu, sous un nom moderne et sans gloire, reconnaître le promontoire de Mycale. Le 25, à 6 heures du matin, nous jetâmes l'ancre au port de Rhodes, afin de prendre un pilote sur la côte de Syrie. Je descendis à terre et je me fis conduire chez M. Magallon, consul français. Toujours même réception, même hospitalité, même politesse. M. Magallon était malade. Il voulut cependant me présenter au commandant turc, très bon homme, qui me donna un chevreau noir et me permit de me promener où je voudrais. Je lui montrai un firman qu'il mit sur sa tête, en me déclarant qu'il portait ainsi tous les habits du grand seigneur. Il me tardait de sortir de cette audience pour jeter du moins un regard sur cette fameuse Rhode, où je ne devais passer qu'un moment. Ici commençait pour moi une antiquité qui formait le passage entre l'antiquité grecque que je quittais et l'antiquité hébraïque, dont j'allais chercher les souvenirs. Les monuments des chevaliers de Rhodes ranimèrent ma curiosité, un peu fatiguée des ruines de Sparte et d'Athènes, des lois sages sur le commerce, quelques vers de Pindare sur l'épouse du soleil et la fille de Vénus, des poètes comiques, des peintres, des monuments plus grands que beaux, voilà, je crois, tout ce que rappelle aux voyageurs la Rhodes antique. Les Rhodiens étaient braves. Il est singulier qu'ils se soient rendus célèbres dans les armes pour avoir soutenu un siège avec gloire, comme les chevaliers leurs successeurs. Rhodes, honoré de la présence de Cicéron et de Pompée, fut souillé par le séjour de Tibère. Les Perses s'emparèrent de Rhodes sous le règne d'Honorius. Elle fut prise ensuite par les généraux des califes, l'an 647 de notre ère, et reprise par Anastase, empereur d'Orient. Les Vénitiens s'y établirent en 1203. Jean Ducasse l'enleva aux Vénitiens. Les Turcs la conquirent sur les Grecs. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem s'en saisirent en 1304, 1308 ou 1319. Ils la gardèrent à peu près 2 siècles et la rendirent à Soliman II le 25 décembre 1522. On peut consulter sur Rhodes Coronelli, Dapper, Savary et M. de Choiseul. Rhodes m'offrait à chaque pas des traces de nos mœurs et des souvenirs de ma patrie. Je retrouvais une petite France au milieu de la Grèce. Procedo et parvam Troiam simulataque magnis Pergama agnosco. Je parcourais une longue rue appelée encore la rue des Chevaliers. Elle est bordée de maisons gothiques. Les murs de ces maisons sont parsemés de devises gauloises et des armoiries de nos familles historiques. Je remarquais les lys de France couronnés et aussi frais que s'ils sortaient de la main du sculpteur. Les Turcs, qui ont mutilé partout les monuments de la Grèce, ont épargné ceux de la chevalerie. L'honneur chrétien a étonné la bravoure infidèle et les Saladins ont respecté les coucis. Au bout de la rue des Chevaliers, on trouve 3 arceaux gothiques qui conduisent au palais du grand maître. Ce palais sert aujourd'hui de prison. Un couvent à demi ruiné est desservi par 2 moines et tout ce qui rappelle à Rhodes cette religion qui y fit tant de miracles. Les pères me conduisirent à leur chapelle. On y voit une vierge gothique peinte sur bois. Elle tient son enfant dans ses bras. Les armes du grand maître d'Aubusson sont gravées au bas du tableau. Cette antiquité curieuse fut découverte il y a quelques années par un esclave qui cultivait le jardin du couvent. Il y a dans la chapelle un second autel dédié à Saint-Louis, dont on retrouve l'image dans tout l'Orient et dont j'ai vu le lit de mort à Carthage. Je laissai quelques aumônes à cet autel en priant les pères de dire une messe pour mon bon voyage, comme si j'avais prévu les dangers que je courais sur les côtes de Rhodes à mon retour d'Égypte. Le port marchand de Rhodes serait assez sûr si l'on rétablissait les anciens ouvrages qui le défendaient. Au fond de ce port s'élève un mur flanqué de 2 tours. Ces 2 tours, selon la tradition du pays, ont remplacé les 2 rochers qui servaient de base au colosse. On sait que les vaisseaux ne passaient point entre les jambes de ce colosse, et je n'en parle que pour ne rien oublier. Assez près de ce premier port se trouve la darse des galères et le chantier de construction. On y bâtissait alors une frégate de 30 canons avec des sapins tirés des montagnes de l'île, ce qui m'a paru digne de remarque. Les rivages de Rhodes, du côté de la Caramanie, la Doride et la Carie, sont à peu près au niveau de la mer, mais l'île s'élève dans l'intérieur et l'on remarque surtout une haute montagne, aplatie à sa cime, citée par tous les géographes de l'Antiquité. Il reste encore à l'Inde quelques vestiges du temple de Minerve. Camir et Hyalis ont disparu. Rhodes fournissait autrefois de l'huile à toute l'Anatolie. Elle n'en a pas aujourd'hui assez pour sa propre consommation. Elle exporte encore un peu de blé. Les vignes donnent un vin très bon qui ressemble à celui du Rhône. Les plants en ont peut-être été apportés du Dauphiné par les chevaliers de cette langue, d'autant plus qu'on appelle ces vins, comme en Chypre, vin de commanderie. Nos géographies nous disent que l'on fabrique à Rhodes des velours et des tapisseries très estimées. Quelques toiles grossières, dont on fait des meubles, aussi grossiers, sont dans ce genre le seul produit de l'industrie des Rhodiens. Ce peuple, dont les colonies fondèrent autrefois Naples et Agrigente, occupe à peine aujourd'hui un coin de son île déserte. Un haga avec une centaine de janissaires dégénérés suffisent pour garder un troupeau d'esclaves soumis. On ne conçoit pas comment l'ordre de Malte n'a jamais essayé de rentrer dans ses anciens domaines. Rien n'était plus aisé que de s'emparer de l'île de Rhodes. Il eût été facile aux chevaliers d'en relever les fortifications, qui sont encore assez bonnes. Ils n'en auraient point été chassés de nouveau, car les Turcs, qui les premiers en Europe ouvrirent la tranchée devant une place, sont maintenant le dernier des peuples dans l'art des sièges. Je quittai M. Magalon le 25 à 4 heures du soir, après lui avoir laissé des lettres qu'il me promit de faire passer à Constantinople par la Caramanie. Je rejoignis dans un caïque notre bâtiment, déjà sous voile, avec son pilote côtier. Ce pilote était un Allemand établi à Rhodes depuis plusieurs années. Nous fîmes route pour reconnaître le cap à la pointe de la Caramanie, autrefois le promontoire de la Chimère en Lycie. Rhodes offrait au loin derrière nous une chaîne de côtes bleuâtres sous un ciel d'or. On distinguait dans cette chaîne deux montagnes carrées qui paraissaient taillées pour porter des châteaux et qui ressemblaient assez par leur coupe aux acropolis de Corinthe, d'Athènes et de Pergame. Le 26 fut un jour malheureux. Le calme nous arrêta sous le continent de l'Asie, presque en face du cap Chelidonia, qui forme la pointe du golfe de Satalie. Je voyais à notre gauche les pics élevés du Cragus, et je me rappelais les vers des poètes sur la froide Lycie. Je ne savais pas que je maudirais un jour les sommets de ce Taurus, où je me plaisais à regarder, et que j'aimais à compter parmi les montagnes célèbres dont j'avais aperçu la cime. Les courants étaient violents et nous portaient en dehors, comme nous le reconnûmes le jour d'après. Le vaisseau qui était sur son lest fatiguait beaucoup au roulis. Nous cassâmes la tête du grand mât et la vergue de la seconde voile du mât de misaine. Pour des marins aussi peu expérimentés, c'était un très grand malheur. C'est véritablement une chose surprenante que de voir naviguer des Grecs. Le pilote est assis, les jambes croisées, la pipe à la bouche. Il tient la barre du gouvernail, laquelle, pour être de niveau avec la main qui la dirige, rase le plancher de la poupe. Devant ce pilote, à demi couché, et qui n'a par conséquent aucune force, est une boussole qu'il ne connaît point, et qu'il ne regarde pas. À la moindre apparence de danger, on déploie sur le pont des cartes françaises et italiennes. Tout l'équipage se couche, à plat ventre, le capitaine à la tête. On examine la carte, on en suit les dessins avec le doigt. On tâche de reconnaître l'endroit où l'on est. Chacun donne son avis, on finit par ne rien entendre à tout ce grimoire des Francs. On reploie la carte, on amène les voiles, où l'on fait vent en arrière. Alors on reprend la pipe et le chapelet. On se recommande à la Providence et l'on attend l'événement. Il y a tel bâtiment qui parcourt ainsi 200 ou 300 lieues hors de sa route et qui aborde en Afrique au lieu d'arriver en Syrie. Mais tout cela n'empêche pas l'équipage de danser aux premiers rayons du soleil. Les anciens Grecs n'étaient sous plusieurs rapports que des enfants aimables et crédules, qui passaient de la tristesse à la joie avec une extrême mobilité. Les Grecs modernes ont conservé une partie de ce caractère, heureux du moins de trouver dans leur légèreté une ressource contre leur misère. Le vent du nord reprit son cours vers les 8 heures du soir, et l'espoir de toucher bientôt au terme du voyage ranima la gaieté des pèlerins. Notre pilote allemand nous annonça qu'au lever du jour, nous apercevrions le cap Saint-Tiphaine dans l'île de Chypre. On ne songea plus qu'à jouir de la vie. Tous les soupers furent apportés sur le pont. On était divisé par groupes. Chacun envoyait à son voisin la chose qui manquait à ce voisin. J'avais adopté la famille qui logeait devant moi à la porte de la chambre du capitaine. Elle était composée d'une femme, de 2 enfants et d'un vieillard, père de la jeune pèlerine. Ce vieillard accomplissait pour la 3e fois le voyage de Jérusalem. Il n'avait jamais vu de pèlerin latin, et ce bonhomme pleurait de joie en me regardant. Je soupai donc avec cette famille. Je n'ai guère vu de scènes plus agréables et plus pittoresques. Le vent était frais, la mer belle, la nuit sereine. La lune avait l'air de se balancer entre les mâts et les cordages du vaisseau. Tantôt, elle paraissait hors des voiles et tout le navire était éclairé. Tantôt, elle se cachait sous les voiles et les groupes des pèlerins rentraient dans l'ombre. Qui n'aurait béni la religion en songeant que ces 200 hommes, si heureux dans ce moment, étaient pourtant des esclaves courbés sous un joug odieux. Ils allaient au tombeau de Jésus-Christ oublier la gloire passée de leur patrie et se consoler de leurs maux présents. Et que de douleurs secrètes ne déposeraient-ils pas bientôt à la crèche du Sauveur? Chaque flot qui poussait le vaisseau vers le saint rivage emportait une de nos peines. Le 27 au matin, à la grande surprise du pilote, nous nous trouvâmes en pleine mer et nous n'apercevions aucune terre. Le calme survint, la consternation était générale. Où étions-nous? Étions-nous en dehors ou en dedans de l'île de Chypre? On passa toute la journée dans cette singulière contestation. Parler de faire le point ou de prendre hauteur eût été de l'hébreu pour nos marins. Quand la brise se leva vers le soir, ce fut un autre embarras. Quel air de vent devions-nous tenir? Le pilote, qui se croyait entre la côte septentrionale de l'île de Chypre et le golfe de Satalie, voulait mettre le cap au midi pour reconnaître la première. Mais il fut résulté de là que, si nous avions dépassé l'île, nous serions allés par cette pointe du compas droit en Égypte. Le capitaine prétendait qu'il fallait porter au nord, afin de retrouver la côte de la Caramanie. C'était retourner sur nos pas. D'ailleurs, le vent était contraire pour cette route. On me demanda mon avis, car dans les cas un peu difficiles, les Grecs et les Turcs ont toujours recours aux francs. Je conseillais de cingler à l'est pour une raison évidente. Nous étions en dedans ou en dehors de l'île de Chypre, or dans ces 2 cas, en courant au levant, nous faisions bonne route. De plus, si nous étions en dedans de l'île, nous ne pouvions manquer de voir la terre à droite ou à gauche en très peu de temps, soit au cap Enemour, en Caramanie, ou au cap Kornakiti, en Chypre. Nous en serions quittes pour doubler la pointe orientale de cette île et pour descendre ensuite le long de la côte de Syrie. Cet avis parut le meilleur et nous mîmes la proue à l'est. Le 28, à 5 heures du matin, à notre grande joie, nous eûmes connaissance du cap de Gath dans l'île de Chypre. Il nous restait au nord à environ 8 ou 10 lieues. Ainsi, nous nous trouvions en dehors de l'île et nous étions dans la vraie direction de Jaffa. Les courants nous avaient portés au large vers le sud-ouest. Le vent tomba à midi, le calme continua le reste de la journée et se prolongea jusqu'au 29. Nous reçûmes à bord 3 nouveaux passagers, 2 bergères honnêtes et 1 hirondelle. Je ne sais ce qui avait pu engager les premières à quitter les troupeaux. Quant à la dernière, elle allait peut-être en Syrie et elle venait peut-être de France. J'étais tenté de lui demander des nouvelles de ce toit paternel que j'avais quitté depuis si longtemps. Je me rappelle que dans mon enfance, je passais des heures entières à voir, avec je ne sais quel plaisir triste, voltiger les hirondelles en automne. Un secret instinct me disait que je serais voyageur comme ces oiseaux. Ils se réunissaient à la fin du mois de septembre dans les joncs d'un grand étang. Là, poussant des cris et exécutant 1000 volutions sur les eaux, ils semblaient essayer leurs ailes et se préparer à de longs pèlerinages. Pourquoi, de tous les souvenirs de l'existence, préférons-nous ceux qui remontent vers notre berceau? Les jouissances de l'amour-propre, les illusions de la jeunesse, ne se présentent point avec charme à la mémoire. Nous y trouvons, au contraire, de l'aridité ou de l'amertume. mais les plus petites circonstances réveillent au fond du cœur les émotions du premier âge, et toujours avec un attrait nouveau. Au bord des lacs de l'Amérique, dans un désert inconnu qui ne raconte rien aux voyageurs, dans une terre qui n'a pour elle que la grandeur de sa solitude, une hirondelle suffisait pour me retracer les scènes des premiers jours de ma vie, comme elle me les a rappelées sur la mer de Syrie, à la vue d'une terre antique, retentissante de la voix des siècles et des traditions de l'histoire. Les courants nous ramenaient maintenant sur l'île de Chypre. Nous découvrîmes ses côtes sablonneuses, basses et en apparence arides. La mythologie avait placé dans ces lieux ses fables les plus riantes. Ipus paphum sublimis habit, sedesque revisit laeta suas, ubi templum ili,
centum quae sabaeo, turre calent arae,
certisque recantibus halant. Il vaut mieux pour l'île de Chypre s'en tenir à la poésie qu'à l'histoire, à moins qu'on ne prenne plaisir à se rappeler une des plus criantes injustices des Romains et une expédition honteuse de Caton. Mais c'est une singulière chose à se représenter que les temples d'Amatonte et d'Idalie convertis en donjons dans le Moyen-Âge. Un gentilhomme français était roi de Paphos et des barons couverts de leurs hoquetons étaient cantonnés dans les sanctuaires de Cupidon et des Grâces. On ne peut voir dans l'archipel de Dapper toute l'histoire de Chypre. L'abbé Mariti a fait connaître les révolutions modernes et l'état actuel de cette île, encore importante aujourd'hui par sa position. Le temps était si beau et l'air si doux que tous les passagers restaient la nuit sur le pont. J'avais disputé un petit coin du gaillard d'arrière à deux gros caloyers qui ne me l'avaient cédé qu'en grommelant. C'était là que je dormais le 30 septembre, à 6 heures du matin, lorsque je fus réveillé par un bruit confus de voix. J'ouvris les yeux et j'aperçus les pèlerins qui regardaient vers la proue du vaisseau. Je demandai ce que c'était. On me cria « Signor, il Carmelo !» Le Carmel. Le vent s'était levé la veille à 8 heures du soir et dans la nuit nous étions arrivés à la vue des côtes de Syrie. Comme j'étais couché tout habillé, je fus bientôt debout, m'enquérant de la montagne sacrée. Chacun s'empressait de me la montrer de la main, mais je n'apercevais rien à cause du soleil qui commençait à se lever en face de nous. Ce moment avait quelque chose de religieux et d'auguste. Tous les pèlerins, le chapelet à la main, étaient restés en silence dans la même attitude, attendant l'apparition de la Terre Sainte. Le chef des papas priait à haute voix. On n'entendait que cette prière et le bruit de la course du vaisseau que le vent le plus favorable poussait sur une mer brillante. De temps en temps, un cri s'élevait de la proue quand on revoyait le Carmel. J'aperçus enfin moi-même cette montagne, comme une tache ronde au-dessous des rayons du soleil. Je me mis alors à genoux, à la manière des Latins. Je ne sentis point cette espèce de trouble que j'éprouvais en découvrant les côtes de la Grèce. Mais la vue du berceau des Israélites et de la patrie des chrétiens me remplit de crainte et de respect. J'allais descendre sur la terre des prodiges, aux sources de la plus étonnante poésie, au lieu où, même humainement parlant, s'est passé le plus grand événement qui ait jamais changé la face du monde. Je veux dire la venue du Messie. J'allais d'abord aborder à ces rives que visitèrent comme moi Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, Tancrède le Brave, Hugues le Grand, Richard Cœur de Lion, et ce Saint Louis, dont les vertus furent admirées des infidèles. Obscur pèlerin, comment oserais-je fouler un sol consacré par tant de pèlerins illustres? À mesure que nous avancions et que le soleil montait dans le ciel, les terres se découvraient devant nous. La dernière pointe que nous apercevions au loin, à notre gauche vers le nord, était la pointe de Tyr. Venait ensuite le Cap Blanc, Saint-Jean d'Acre, le Mont Carmel, avec Caïf à ses pieds, Tartoura, autrefois Doréa, le château pèlerin et Césarée, dont on voit les ruines. Jaffa devait être sous la proue même du vaisseau, mais on ne le distinguait point encore. Ensuite, la côte s'abaissait insensiblement jusqu'à un dernier cap au midi, où elle semblait s'évanouir. Là commencent les rivages de l'ancienne Palestine, qui vont rejoindre ceux de l'Égypte, et qui sont presque au niveau de la mer. La terre, dont nous pouvions être à 8 ou 10 lieues, paraissait généralement blanche, avec des ondulations noires, produites par des ombres. Rien ne formait saillie dans la ligne oblique qu'elle traçait du nord au midi. Le mont Carmel même ne se détachait point sur le plan. Tout était uniforme et mal teint. L'effet général était à peu près celui des montagnes du Bourbonnais quand on les regarde des hauteurs de Tarare. Une file de nuages blancs et dentelés suivait à l'horizon la direction des terres et semblait en répéter l'aspect dans le ciel. Le vent nous manqua à midi. Il se leva de nouveau à 4 heures. Mais par l'ignorance du pilote, nous dépassâmes le but. Nous voguions à pleine voile sur Gaza, lorsque des pèlerins reconnurent à l'inspection de la côte la méprise de notre Allemand. Il fallut virer de bord. Tout cela fit perdre du temps et la nuit survint. Nous approchions cependant de Jaffa. On voyait même les feux de la ville. Lorsque le vent du nord-ouest venant à souffler avec une nouvelle force, la peur s'empara du capitaine. Il n'osa chercher la rade de nuit. Tout à coup, il tourna la proue au large et regagna la haute mer. J'étais appuyé sur la poupe et je regardais, avec un vrai chagrin, s'éloigner la terre. Au bout d'une demi-heure, j'aperçus comme la réverbération lointaine d'un incendie sur la cime d'une chaîne de montagnes. Ces montagnes étaient celles de la Judée. La lune, qui produisait l'effet dont j'étais frappé, montra bientôt son disque large et rougissant au-dessus de Jérusalem. Une main secourable semblait élever ce phare au sommet de Sion pour nous guider à la cité sainte. Malheureusement, nous ne suivîmes pas, comme les mages, l'astre salutaire, et sa clarté ne nous servit qu'à fuir le port que nous avions tant désiré. Le lendemain, mercredi 1er octobre, au point du jour, nous nous trouvâmes affalés à la côte, presque en face de Césarée. Il nous fallut remonter au midi le long de la terre. Heureusement, le vent était bon, quoique faible. Dans le lointain s'élevait l'amphithéâtre des montagnes de la Judée. Du pied de ces montagnes, une vaste plaine descendait jusqu'à la mer. On y voyait à peine quelques traces de culture, et pour toute habitation un château gothique en ruine, surmonté d'un minaret croulant et abandonné. Au bord de la mer, la terre se terminait par des falaises jaunes, ondées de noir, qui surplombaient une grève où nous voyions et où nous entendions se briser les flots. L'arabe, errant sur cette côte, suit d'un œil avide le vaisseau qui passe à l'horizon. Il attend la dépouille du naufragé au même bord où Jésus-Christ ordonnait de nourrir ceux qui ont faim et de vêtir ceux qui sont nus. À 2 heures de l'après-midi, nous revîmes enfin Jaffa. On nous avait aperçus de la ville. Un bateau se détacha du port et s'avança au-devant de nous. Je profitai de ce bateau pour envoyer Jean à terre. Je lui remis la lettre de recommandation que les commissaires de Terre Sainte m'avaient donnée à Constantinople et qui était adressée au père de Jaffa. J'écrivis en même temps un mot à ses pères. 1 heure après le départ de Jean, nous vîmes jeter l'ancre devant Jaffa, la ville nous restant au sud-est et le minaret de la mosquée à l'est car sud-est. Je marque ici les rhumbs du compas par une raison assez importante. Les vaisseaux latins mouillent ordinairement plus au large. Ils sont alors sur un banc de rocher qui peut couper les câbles, tandis que les bâtiments grecs, en se rapprochant de la terre, se trouvent sur un fond moins dangereux, entre la darse de Jaffa et le banc de rocher. Jaffa ne présente qu'un méchant amas de maisons rassemblées en rond et disposées en amphithéâtre sur la pente d'une côte élevée. Les malheurs que cette ville a si souvent éprouvés y ont multiplié les ruines. Un mur qui, par ses 2 points, vient aboutir à la mer, l'enveloppe du côté de terre et la met à l'abri d'un coup de main. Des caïques s'avancèrent bientôt de toutes parts pour chercher les pèlerins. Les vêtements, les traits, le teint, l'air de visage, la langue des patrons de ces caïques m'annoncèrent sur le champ la race arabe et la frontière du désert. Le débarquement des passagers s'exécuta sans tumulte, quoique avec un empressement très légitime. Cette foule de vieillards, d'hommes, de femmes et d'enfants ne fit point entendre, en mettant le pied sur la terre sainte, ces cris, ces pleurs, ces lamentations dont on s'est plu à faire des peintures imaginaires et ridicules. On était fort calme, et de tous les pèlerins, j'étais certainement le plus ému. Je vis enfin venir un bateau dans lequel je distinguais mon domestique grec, accompagné de 3 religieux. Ceux-ci me reconnurent à mon habit franc et me firent des salutations de la main, de l'air le plus affectueux. Ils arrivèrent bientôt à bord. Quoique ses pères fussent espagnols et qu'ils parlassent un italien difficile à entendre, nous nous serrâmes la main comme de véritables compatriotes. Je descendis avec eux dans la chaloupe. Nous entrâmes dans le port par une ouverture pratiquée entre des rochers et dangereuse même pour un caïque. Les Arabes du rivage s'avancèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture afin de nous charger sur leurs épaules. Il se passa là une scène assez plaisante. Mon domestique était vêtu d'une redingote blanchâtre. Le blanc étant la couleur de distinction chez les Arabes, ils jugèrent que mon domestique était le cheik. Ils se saisirent de lui et l'emportèrent en triomphe malgré ses protestations, tandis que grâce à mon habit bleu, je me sauvais obscurément sur le dos d'un mendiant déguenillé. Nous nous rendîmes à l'hospice des Pères, simple maison de bois bâtie sur le port et jouissant d'une belle vue de la mer. Mes hôtes me conduisirent d'abord à la chapelle que je trouvai illuminée et où ils remercièrent Dieu de leur avoir envoyé un frère. Touchantes institutions chrétiennes par qui le voyageur trouve des amis et des secours dans les pays les plus barbares. Institutions dont j'ai parlé ailleurs et qui ne seront jamais assez admirées. Les trois religieux qui étaient venus me chercher à bord se nommaient Jean Truillo Spena, Alexandre Roma et Martin Alexano. Ils composaient alors tout l'hospice, le curé Don Juan de la Conception étant absent. En sortant de la chapelle, les pères m'installèrent dans ma cellule, où il y avait une table, un lit, de l'encre, du papier, de l'eau fraîche et du linge blanc. Il faut descendre d'un bâtiment grec chargé de 200 pèlerins pour sentir le prix de tout cela. À 8 heures du soir, nous passâmes au réfectoire. Nous y trouvâmes deux autres pères venus de Rama et partant pour Constantinople, le père Manuel Sancia et le père François Munoz. On dit en commun le Benedicite, précédé du De Profundis, souvenir de la mort que le christianisme mêle à tous les actes de la vie pour les rendre plus graves, comme les anciens le mêlaient à leurs banquets pour rendre leur plaisir plus piquant. On me servit sur une petite table propre et isolée de la volaille, du poisson, d'excellents fruits, tels que des grenades, des pastèques, des raisins et des dattes dans leur primeur. J'avais à discrétion le vin de Chypre et le café du Levant. Tandis que j'étais comblé de bien, les pères mangeaient un peu de poisson sans sel et sans huile. Ils étaient gais, avec modestie, familiers, avec politesse, point de questions inutiles, point de vaines curiosités. Tous les propos roulaient sur mon voyage, sur les mesures à prendre pour me le faire achever en sûreté, car, me disaient-ils, nous répondons de vous à votre patrie. Ils avaient déjà dépêché un express au cheik des Arabes de la montagne de la Judée et un autre au père procureur de Rama. « Nous vous recevons, me disait le père François Munoz, avec un cœur limpido et bianco. » Il était inutile que ce religieux espagnol m'assurât de la sincérité de ses sentiments. Je les aurais facilement devinés à la pieuse franchise de son front et de ses regards. Cette réception si chrétienne et si charitable, dans une terre où le christianisme et la charité ont pris naissance, cette hospitalité apostolique, dans un lieu où le premier des apôtres prêcha l'Évangile, me touchait jusqu'au cœur. Je me rappelais que d'autres missionnaires m'avaient reçu avec la même cordialité dans les déserts de l'Amérique. Les religieux de Terre Sainte ont d'autant plus de mérite qu'en prodiguant aux pèlerins de Jérusalem la charité de Jésus-Christ, ils ont gardé pour eux la croix qui fut plantée sur ces mêmes bords. Ce père au cœur limpido et bianco m'assurait encore qu'il trouvait la vie qu'il menait depuis 50 ans un vero paradiso. Veut-on savoir ce que c'est que ce paradis? Tous les jours une avanie, la menace des coups de bâton, des fers et de la mort. Ce religieux, à la dernière fête de Pâques, ayant lavé des linges de l'autel, l'eau imprégnée d'amidon coula en dehors de l'hospice et blanchit une pierre. Un Turc passe, voit cette pierre et va déclarer au cadi que les pères ont réparé leur maison. Le cadi se transporte sur les lieux, décide que la pierre qui était noire est devenue blanche, et, sans écouter les religieux, il les oblige à payer 10 bourses. La veille même de mon arrivée à Jaffa, le père procureur de l'hospice avait été menacé de la corde par un domestique de l'aga, en présence de l'aga même. Celui-ci se contenta de rouler paisiblement sa moustache, sans daigner dire un mot favorable au chien. Voilà le véritable paradis de ces moines qui, selon quelques voyageurs, sont de petits souverains en terre sainte et jouissent des plus grands honneurs. À 10 heures du soir, mes hôtes me reconduisirent par un long corridor à ma cellule. Les flots se brisaient avec fracas contre les rochers du port. La fenêtre fermée, on eût dit d'une tempête. La fenêtre ouverte, on voyait un beau ciel, une lune paisible, une mer calme et le vaisseau des pèlerins mouillé au large. Les pères sourirent de la surprise que me causa ce contraste. Je leur dis en mauvais latin « Ecce monachis similitudo mundi, quantum cunque mare fremitum redat, eis placidae semper undae videntur, omnia tranquillitas serenis animis. » Je passai une partie de la nuit à contempler cette mer de Tyr que l'Écriture appelle la Grande Mer et qui porta les flottes du roi prophète quand elles allaient chercher les cèdres du Liban et la pourpre de Sidon. Cette mer où Léviathan laisse des traces comme des abîmes, cette mer à qui le Seigneur donna des barrières et des portes, cette mer qui vit Dieu et qui s'enfuit. Ce n'était là ni l'océan sauvage du Canada, ni les flots riants de la Grèce. Au midi s'étendait l'Égypte, où le Seigneur était entré sur un nuage léger pour sécher les canaux du Nil et renverser les idoles. Au nord s'élevait la reine des cités, dont les marchands étaient des princes, Ululate, Naues Maris, Quia devastata est fortitudo vestra, Atrita est civitas vanitatis, Clausa est omnis demus nullo introeunte, Quia hoec erunt in medio terrae, Commodo si paucae olivae remenserunt, Excutiantur ex olea et racemi, cum fuerit finita windemia. Hurlez, vaisseau de la mer, parce que votre force est détruite. La ville des vanités est abattue, toutes les maisons en sont fermées, et personne n'y entre plus. Ce qui restera d'homme en ces lieux sera comme quelques olives demeurées sur l'arbre après la récolte, comme ces quelques raisins suspendus au cep après la vendange. Voilà d'autres antiquités expliquées par un autre poète. Isaïe succède à Homère. Et ce n'était pas tout encore, car la mer que je contemplais baignait à ma droite les campagnes de la Galilée et à ma gauche la plaine d'Ascalon. Dans les premières, je retrouvais les traditions de la vie patriarcale et de la nativité du Seigneur. Dans la seconde, je rencontrais les souvenirs des croisades et les ombres des héros de Jérusalem. Grande et mirabil cosa era il vedere, quando quel campo e questo affronte venne, come spiegate in ordine la schiere di mover ghia, ghia da salire a cane. Sparse al vento o degiando ir le bandiere, e ventolar sui grand cimier le pene, abiti fregi, impresse, arme e colori d'oro e di ferro al sol lampi e fulgori. Quel grand et admirable spectacle de voir les deux camps s'avancer front contre front, les bataillons se déployer en ordre, impatients de marcher, impatients de combattre, les bannières ondoyantes flottent dans les airs, et le vent agite les panaches sur les hauts cimiers, les habits, les franges, les devises, les couleurs, les armes d'or et de fer resplendissent au feu du soleil. Gibet Rousseau nous peint ensuite le succès de cette journée. La Palestine, enfin, après tant de ravages, vit fuir ses ennemis, comme on voit les nuages dans le vague désert fuir devant l'Aquilon, et du vent du midi la dévorante baleine n'a consumé qu'à peine leurs ossements blanchis dans les champs d'Ascalon. Ce fut à regret que je m'arrachais au spectacle de cette mer qui réveille tant de souvenirs, mais il fallut céder au sommeil. Le père Jouant de la Conception, curé de Jaffa et président de l'hospice, arriva le lendemain matin 2 octobre. Je voulais parcourir la ville et rendre visite à l'aga qui m'avait envoyé complimenter. Le président me détourna de ce dessein. « Vous ne connaissez pas ces gens-ci, me dit-il. Ce que vous prenez pour une politesse est un espionnage. On est venu vous saluer que pour savoir qui vous êtes, si vous êtes riche, si on peut vous dépouiller. » Voulez-vous voir l'aga ? Il faudra d'abord lui porter des présents. Il ne manquera pas de vous donner, malgré vous, une escorte pour Jérusalem. L'aga de Rama augmentera cette escorte. Les Arabes, persuadés qu'un riche franc va en pèlerinage au Saint-Sépulcre, augmenteront les droits du Cafaro ou vous attaqueront. À la porte de Jérusalem, vous trouverez le camp du pacha de Damas, qui est venu lever les contributions avant de conduire la caravane à la Mecque. Votre appareil donnera de l'ombrage à ce pacha et vous exposera à des avanies. Arrivé à Jérusalem, on vous demandera 3 ou 4 000 piastres pour l'escorte. Le peuple, instruit de votre arrivée, vous assiégera de telle manière qu'eussiez-vous des millions, vous ne satisferiez pas son avidité. Les rues seront obstruées sur votre passage et vous ne pourrez entrer au Saint-Lieu sans courir les risques d'être déchiré. Croyez-moi, demain, nous nous déguiserons en pèlerins et nous irons ensemble à Rama. Là, je recevrai la réponse de mes express. Si elle est favorable, vous partirez dans la nuit, vous arriverez sain et sauf, à peu de frais, à Jérusalem. » Le père appuya son raisonnement de 1000 exemples, et en particulier de celui d'un évêque polonais à qui un trop grand air de richesse pensa coûter la vie il y a 2 ans. Je ne rapporte ceci que pour montrer à quel degré la corruption, l'amour de l'or, l'anarchie et la barbarie sont poussés dans ce pays. Je m'abandonnai donc à l'expérience de mes hôtes, et je me renfermai dans l'hospice où je passai une agréable journée dans des entretiens paisibles. J'y reçus la visite de M. Contessini, qui aspirait au vice-consulat de Jaffa, et de Messieurs Damien, père et fils, français d'origine, jadis établis auprès de Djezar à Saint-Jean-d'Acre. Ils me racontèrent des choses curieuses sur les derniers événements de la Syrie. Ils me parlèrent de la renommée que l'empereur et nos armes ont laissée au désert. Les hommes sont encore plus sensibles à la réputation de leur pays, hors de leur pays, que sous le toit paternel. Et l'on a vu les émigrés français réclamer leur part des victoires qui semblaient les condamner à un exil éternel. Je passai 5 jours à Jaffa, à mon retour de Jérusalem, et je l'examinai dans le plus grand détail. Je ne devrais donc en parler qu'à cette époque. Mais pour suivre l'ordre de ma marche, je placerai ici mes observations. D'ailleurs, après la description des saints lieux, il est probable que les lecteurs ne prendraient pas un grand intérêt à celle de Jaffa.
Fin de la section 16.